est 7h. Le journal de 7h. Linda Christelle Ballier.
Bonjour à tous et bienvenue sur Radio de la Paix. Vous nous suivez sur les 96.0 FM à Abidjan. Le projet budgétaire de l'État pour l'année 2024 est fixé à 13 020 milliards de francs CFA a été adopté hier mercredi en Conseil des ministres. On en sait un peu plus dans quelques secondes. Et puis dans ce journal, nous parlerons de lutte contre le cancer du sein avec le professeur Judith Didikou-Koulibaly, directrice du CNRAO, qui expliquera comment éviter cette maladie. Hors de nos frontières au Maroc, près de 200 migrants sénégalais ont été secourus au large des côtes du Sahara occidental. Et puis la revue des titres de vos quotidiens sera l'affaire ce matin de Jean-Claude Comé. Et dans l'invité de la rédaction, le politologue sénégalais Adama Sadio, également chargé de cours à l'université Charenta Diop de Dakar, se penchera sur la situation sociopolitique de son pays, surtout avec l'ordonnance récente d'un juge de Ziguinchor de réinscrire l'opposant Ousmane Sonko sur la liste électorale en vue de la présidentielle de 2024. Voilà pour le sommaire. Le budget de l'État de l'année 2024 s'équilibre en recettes et en dépenses à 13 720 milliards de francs CFA, soit une progression de 17,3% par rapport à l'année 2023. C'est la principale information sortie du Conseil des ministres hier, mercredi 25 octobre, tenu au palais de la présidence de la République et présidé par le chef de l'État Alassane Ouattara, suivant le compte-rendu de Junior Cardin.
Le porte-parole du gouvernement, Amadou Coulibaly, a d'abord indiqué les orientations de la politique budgétaire 2024.
Ainsi, la politique budgétaire sera orientée vers l'intensification des efforts de mobilisation des recettes intérieures, la gestion efficiente des charges de fonctionnement de l'État et la maîtrise de l'endettement public en vue de soutenir davantage la transformation structurelle de l'économie et la couverture des besoins sociaux et sécuritaires.
Puis, Amadou Coulibaly a précisé que le budget pour l'année 2024 privilégie les investissements dans les secteurs moteurs de la croissance.
Le renforcement des infrastructures socio-économiques, la consolidation du dispositif sécuritaire et l'accroissement des dépenses en faveur de la réduction de la pauvreté et des disparités sociales, notamment à travers la poursuite de la mise en œuvre du programme social du gouvernement, le PSGOV 2021-2025, avec un accent en particulier accordé à la jeunesse à travers le programme jeunesse du gouvernement 2023-2025, le PJGOV.
Objectif majeur pour l'atteinte desquels le budget a été conçu en conséquence.
Le projet de budget de l'année 2024 s'équilibre en ressources et en charges à 13 720,7 milliards de francs CFA, soit une progression de 17,3%.
Dans les divers de ce Conseil des ministres, le chef de l'État a adressé une lettre circulaire à chacun des ministres afin de rappeler les grands principes de la gestion des ressources publiques avec en ligne de mire la bonne gouvernance.
Et puis, nous parlons du Sénat ivoirien qui a procédé mardi 24 octobre à Yamoussoukro à la mise en place de ses organes, notamment son bureau ainsi que ses commissions permanentes. La toute nouvelle présidente de l'institution, Kandia Camara, qui présidait cette séance plénière, a, au terme des travaux, affiché sa détermination ainsi que celle de son équipe à relever tous les défis. Kandia Kamissoko, qu'on écoute, présidente de la Chambre haute du Parlement ivoirien.
En effet, nous venons de procéder à la mise en place des organes du Sénat conformément au règlement de notre institution. Et donc, nous avons mis en place le bureau du Sénat qui comporte normalement 17 membres, mais nous venons d'installer 15 en attendant l'entrée du PDCI-RDA. Et ensuite, nous avons mis en place les 6 commissions permanentes. Ça veut dire que le Sénat est prêt pour reprendre ses activités. Évidemment, le Sénat a pour mission de faire voter les lois, d'évaluer les politiques publiques, de contrôler l'action gouvernementale et de représenter les collectivités territoriales et les Ivoiriens établis à l'extérieur. Je peux vous dire que nous avons une équipe déterminée, engagée, prête à se battre pour relever tous les défis. Nous avons déjà 13 projets de loi qui nous attendent. Nous avons la loi de finances. Nous avons des projets de loi sur le statut des diplomates, sur le statut des fonctionnaires et bien d'autres projets de loi. Pour vous dire qu'aujourd'hui, le Sénat est prêt à accueillir les commissaires du gouvernement afin d'étudier tous les projets de loi qui vont nous être soumis. Donc, nous sommes pour le moment 97 sénateurs en attendant l'arrivée des deux autres. Donc, au total, nous serons 99 sénateurs et je vous promets que les 99 sénateurs joueront pleinement leur rôle sur l'échiquier national.
Kandia Kamisoko Camara, à l'instant présidente de la Chambre haute du Parlement ivoirien. Et dans sa composition actuelle du Sénat ivoirien, l'opposition ne peut pas avoir de groupe parlementaire relativement à son règlement intérieur qui stipule qu'il faut au moins 8 sénateurs pour en constituer un groupe. Or, l'opposition en a que 6 actuellement. Que faire donc en pareille circonstance? Interrogé sur la question, le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouao répond ceci.
À l'observation, l'opposition n'a pas les moyens actuels pour former un groupe parlementaire au niveau du Sénat. En ce sens que les dispositions du règlement intérieur du Sénat stipulent que pour créer un groupe parlementaire, il faut avoir au moins 8 sénateurs. Or, aujourd'hui, quand on regarde bien la composition du Sénat, le PDCRDA n'a que 6 sénateurs, ce qui met ce parti dans l'impossibilité de former un groupe parlementaire. Alors, la seule chose à faire, c'est de réviser le règlement intérieur du Sénat. Et cela peut se faire à la demande d'une vingtaine de sénateurs, encore que tous ces sénateurs-là sont membres du RHDP. Donc, il va falloir certainement une volonté politique pour demander aux sénateurs de réviser le règlement intérieur à l'effet de ramener le quorum de 8 à 6 sénateurs pour former un groupe parlementaire. À défaut, nous aurons un Sénat monocolore.
Un Sénat monocolore, ce n'est pas une bonne image pour la démocratie en Côte d'Ivoire.
Oui, dans une assemblée délibérante comme celle du Sénat, il faut plusieurs sensibilités politiques. Il n'y a pas d'anomalie en tant que telle. C'est parce que nous sommes aujourd'hui dans une démocratie avec un parti présidentiel extrêmement dominant. Il faut donc que les partis d'opposition réajustent leur stratégie politique.
Le juriste et analyste politique Geoffroy Julien Kouao était en ligne avec Désiré Gapinan. Parlons de santé à présent, lutte contre le cancer du sein. Comment éviter le cancer du sein? La question est abordée par le professeur Judith Didikou-Koulibaly. Elle est directrice du Centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie à la San Ouattara, CNRAO, qui était mardi dernier l'invité de la tribune Tout savoir sur du Centre d'information et de communication gouvernementale. Suivons ses explications dans ce compte-rendu de Matatouri.
Tout d'abord, on retiendra qu'en Côte d'Ivoire, l'on enregistre 3306 nouveaux cas de cancer du sein par an et qu'ensuite, le cancer du sein est une maladie dont l'on peut guérir quand elle est découverte tôt et qu'elle est correctement traitée. Professeur Didi Kouaou, directrice du CNRAO.
C'est bien de venir à l'hôpital immédiatement quand on sent quelque chose, mais c'est pas ça le dépistage. Le dépistage, c'est encore plus. Il faut venir quand on pense qu'on n'a rien. Comment on fait un dépistage du cancer du sein? Il y a 3 choses. Déjà, il faut savoir que ça commence à partir de 20 ans, d'examiner ses seins tous les mois. Il faut aller voir un professionnel de la santé 2 fois dans l'année, si on peut pas, au moins une fois par an. Et quand on atteint 45 ans, on va rajouter à ces 2 choses-là la radiographie des seins qu'on appelle la mammographie. Et elle, on va la faire tous les 2 ans. Donc quand on dit découvert tôt, le cancer du sein peut se guérir, voilà ce qu'il faut faire. La deuxième condition, c'était correctement traité. Ça veut dire avoir les moyens que la médecine a développés et pouvoir faire face, c'est-à-dire déjà que ce soit disponible et que pendant que c'est là, si on nous prescrit, qu'on puisse au moins bénéficier de ces traitements.
Chez les hommes, le cancer du sein est rare. Il représente 0,5 à 1% de tous les cancers du sein qui les concernent. En octobre, on ne reparle pas des hommes, puisqu'il y a une poitrine plate. Ils ne font pas l'objet de dépistage, puisque cela apparaît, on le voit. Mais le message qui leur est transmis est de savoir que cela peut exister.
Et puis parlons de santé toujours, les journées nationales de vaccination contre la poliomyélite se tiendront du 27 au 30 octobre prochain et vont concerner les 137, les 100 13 districts sanitaires du pays pour ce deuxième passage. Il s'agira durant ces 4 jours pour les mobilisateurs et vaccinateurs de visiter les ménages afin de sensibiliser les populations et vacciner les enfants de 0 à 5 ans contre la poliomyélite. Les détails avec Dr Yeboah Amoakon, chef du service communication du programme élargi de vaccination des CPEV.
La région africaine de l'Organisation mondiale de la santé fait face à une épidémie de poliomyélite de souche vaccinale circulant de type 2 qui affecte plusieurs pays, dont la Côte d'Ivoire. Et depuis le début de l'année 2023, ce virus a été isolé sur 4 sites de surveillance environnementale dans la ville d'Abidjan. Et donc depuis 22 avril 2023, ce sont 6 cas humains de poliomyélite, c'est-à-dire des enfants qui ont la poliomyélite, dû donc à ce virus-là qui ont été notifiés dans les districts sanitaires de Bouna, de Doropo, de Kong, de Man et San Pedro, et 10 cas contacts de poliomyélite à Bouna et à Doropo. La stratégie adoptée pour interrompre donc la circulation donc de ce virus dans le pays était d'organiser, avec l'appui de nos partenaires techniques et financiers, ce deuxième passage va débuter à partir du 27 octobre, après le premier, sur tout l'étendue du territoire, poussé hors de la Côte d'Ivoire et hors de l'Afrique, ce virus qui paralyse nos enfants. On a eu à faire une enquête qu'on appelle l'enquête de monitorage. L'enquête a révélé que 65,5% de ces districts-là n'avaient pas des résultats acceptés. C'est une opportunité qu'on nous donne encore en faisant le deuxième passage pour permettre à ces districts qui ont été rejetés au premier passage de renforcer donc leur stratégie et de pouvoir donner aux enfants de 0 à 5 ans les 2 gouttes de polio, quel que soit le lieu où ils se trouvent, pour que d'ici la fin de l'année, nous ne parlerons des cas de poliomyélite retrouvés par-ci ou par-là.
Docteur Yeboah Amoakon, chef du service communication du programme élargi de vaccination des CPEV. Notons que cette tournée de vaccination contre la poliomyélite est initiée par le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de la couverture maladie universelle en collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé, l'UNICEF et le Rotary. Hors de nos frontières, au Maroc, près de 200 migrants sénégalais ont été secourus au large des côtes du Sahara occidental. Il s'agissait de 2 embarcations parties du Sénégal à destination des îles espagnoles des Canaries qui ont rencontré des difficultés qui ont finalement dérivé vers les côtes sahraouies, ont expliqué les militaires de la marine marocaine. 189 migrants ont pu être secourus, dont 18 femmes et 29 mineurs, et 3 corps sans vie ont été repêchés. De retour en Côte d'Ivoire, dans ce studio, nous retrouvons Jean-Claude Comé qui s'est chargé aujourd'hui de parcourir pour vous les unes des quotidiens parus ce jeudi. Bonjour Jean-Claude.
Bonjour Linda, bonjour à tous. Le budget de la Côte d'Ivoire pour l'année 2024 s'élève à plus de 13 000 milliards de francs CFA. L'information émane du Conseil des ministres d'hier, une information qui occupe les principales unes des journaux de ce jeudi 26 octobre. Et c'est Fraternité Matin qui donne le ton avec des précisions sur ce budget prévisionnel de l'État et qui est de 13 720,7 milliards de francs CFA pour 2024. Information que confirme aussi le Patriote Le Jour Plus. L'avenir se réjouit de ce que ce budget de l'État ait atteint ce niveau record de plus de 13 000 milliards de francs CFA. S'il relève cette information sur le budget 2024, la voix originale estime qu'il est en hausse pour des recettes insuffisantes, ce qui pourrait induire une hausse du coût de la vie. Une information que partage aussi du reste Awa Dombello, cadre du PPACI, qui prédit une vie plus chère sous le régime Ouattara. Par rapport au budget 2024, le Matin signale qu'il concerne 21 dotations et 134 programmes, mais insiste sur les consignes du chef de l'État aux membres du gouvernement sur la gestion des ressources de l'État. Et dans ce sens, le confrère écrit que le chef de l'État a donné aussi des consignes fermes à Zorro Bibalo, le nouveau président de la Haute Autorité pour la Bonne Gouvernance. Soirinfo note qu'à ce conseil des ministres, le président Ouattara a insisté sur la règle de bonne gouvernance, gestion efficiente des ressources de l'État. Le président Ouattara donne des directives aux ministres, affiche alors l'essor. Situation des gendarmes ivoiriens encore détenus au Burkina Faso selon l'Inter. Le porte-parole du gouvernement a expliqué à la presse la démarche de la Côte d'Ivoire sur le dossier. Et puis au titre de l'actualité politique, le temps revient sur les récentes nominations au sein du PPACI en expliquant comment la liste a été constituée. La nouvelle alliance s'intéresse au prochain congrès du PDCI en faisant remarquer que ce parti est face au défi de la succession de son défunt président Henri Conan Bédié. Justement, parlant de cette succession, l'expression révèle que la guerre des clans ferait déjà rage et c'est dans ce contexte que Maurice Kakou Dikawe, l'un des vice-présidents de ce parti et par ailleurs secrétaire exécutif en chef, annonce en une du Nouveau Réveil qu'il est candidat à la présidence du PDC-RDA. Dernier au monde, comme pour apporter une réponse à cette une de son confrère, explique à sa une pourquoi la candidature de Tidiane Thiam à la présidence du PDCI ne peut pas être écartée. Le mandat au-delà du seul PDCI analyse ces changements au sein de ses principaux partis ivoiriens comme le début d'une bataille entre le RHDP, le PDCI et le PPACI pour la présidentielle 2025. Une bataille qui, selon le confrère, est déjà engagée. Et puis enfin, prétendue fissure sur l'échangeur du carrefour de la Solibra situé entre Trècheville et Macori, le Rassemblement rapporte que le ministère de l'Équipement et de l'Entretien routier rétablit la vérité et rassure. Merci.
Merci à vous, Jean-Claude Comé, pour cette revue des titres. Dans l'édition de 8 heures, vous serez encore sur les antennes de Radio de la Paix pour le même exercice. À présent, l'invité de la rédaction pour parler de la situation sociopolitique au Sénégal qui est marquée par l'élection présidentielle qui se tiendra le 25 février 2024. Dans ce contexte, un juge du tribunal de Ziguinchor a ordonné la réinscription sur la liste électorale du nom de l'opposant Ousmane Sonko, radié pour des raisons judiciaires. Quelles pourraient donc être les implications politiques de cette décision et quelle ambiance politique au Sénégal à quelques mois de cette présidentielle? Pour répondre à ces questions, Jean-Claude Comé reçoit dans l'invité de la rédaction Adama Sadio, politologue sénégalais, également chargé de cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar.
Docteur Adama Sadio, bonjour.
Bonjour.
L'actualité sénégalaise est marquée par l'élection présidentielle avec ses multiples candidatures. Alors, pourquoi cet intérêt
Bon, déjà, une pluralité de candidatures, c'est l'expression d'une vitalité démocratique. Cela veut dire que donc, tout Sénégalais qui prétend être dans la disposition de gouverner le Sénégal a la possibilité de prétendre à la candidature. Maintenant, vouloir être candidat et être candidat, c'est deux choses totalement différentes. Dans la mesure où, au Sénégal, il y a d'abord ce qu'on appelle le système de parrainage. Il y a un parrainage citoyen, ou il y a un parrainage parlementaire, il y a un parrainage des élus. Maintenant, pour le parrainage parlementaire, il faut au moins avoir 13 députés qui parrainent un candidat. Mais pour le parrainage des élus, il faut plusieurs élus locaux, notamment des maires ou des présidents de conseils départementaux, ce qui n'est pas le cas pour plusieurs partis politiques. Donc, là sont les partis politiques aujourd'hui qui peuvent se prétendre à ce système de parrainage-là. Cela dit, aujourd'hui, on compte plus de 200 candidats. Pour la question du parrainage, cela n'a rien à voir avec le dossier de candidature qui sera également déposé au Conseil constitutionnel.
Alors, mais on note aussi que c'est un fait. Le président en exercice a fini par annoncer sa non-candidature. Est-ce qu'aujourd'hui, avec le recul, Macky Sall a été obligé de prendre cette décision ou c'était le respect de sa parole donnée de mandat sans plus?
En fait, c'est vrai que dans ses explications, il dit au monde, il dit aux Sénégalais, il peut être toujours candidat, mais s'il n'est pas candidat, c'est parce qu'il tient à sa parole donnée. Mais la réalité des faits est autre. La réalité, c'est que le président Macky Sall, les actes qu'il a toujours posés de 2019 à nos jours, ce sont des actes qui ont toujours montré sa volonté d'être candidat. Mais le problème, c'est qu'il y a eu un rapport de force à un moment qui n'était pas en sa faveur. Donc, ce qui l'a obligé à se rétracter, à changer de position. Parce que, s'il était candidat, la tension était tellement vive au Sénégal que ça risquerait donc d'augmenter la tension dans le pays. Mais aussi qu'il n'est pas évident que le président Macky Sall, qui se présente à une troisième candidature, puisse remporter l'élection présidentielle. Vous savez, le peuple sénégalais est un peuple un peu particulier dans la mesure où c'est un peuple qui est très attaché aux valeurs de démocratie et de droits humains. Vous voyez aujourd'hui des intellectuels, des universitaires qui produisent des manifestes régulièrement contre le président Macky Sall. Forcément, ils ne sont pas contre lui, mais ils sont contre, en fait, l'état actuel de la démocratie sénégalaise. Et là, nous sommes à 5 mois de la présidentielle et je pense que ce sera une élection présidentielle à observer minutieusement parce que c'est une élection avec beaucoup d'enjeux parce que également c'est la qualité de la démocratie sénégalaise qui est en jeu.
L'un des acteurs qui a poussé un peu le président Macky Sall à se rétracter, c'est l'opposant Ousmane Sonko qui est emprisonné. Mais les développements judiciaires lui permettent aujourd'hui qu'il soit inscrit sur la liste électorale déjà. Comment vous réagissez par rapport à cela?
Oui. En fait, vous savez, ce qui vous montre aujourd'hui que la démocratie sénégalaise n'est pas en bonne santé, c'est que lorsque le juge du tribunal d'instance de Ziguinchor a rétabli Ousmane Sonko dans ses droits civils et politiques, mais c'était comme si le Sénégal avait gagné la Coupe du Monde ou la Coupe d'Afrique. Mais alors qu'une décision de justice en faveur d'un opposant mais doit être une banalité dans une démocratie, mais c'est devenu un cas extraordinaire. Donc cela veut dire que là, il y a vraiment lieu de s'interroger sur la qualité actuelle, je dis bien, de la démocratie sénégalaise. Maintenant, oui, le juge récemment a ordonné la réinscription de Ousmane Sonko sur la liste électorale, mais le monsieur n'est pas encore sorti de l'aubaine parce qu'il y a encore un autre dossier, le dossier de diffamation avec le ministre Mamegna qui est à la Cour suprême. Et semble-t-il, d'après en tout cas certaines informations, que la Cour suprême va vider cette affaire-là bientôt.
Alors, cette décision judiciaire, quelles sont les conséquences justement de la demande de réinscription de Ousmane Sonko? Est-ce que cela lui permet éventuellement d'être candidat?
Oui, absolument. À l'instant où nous parlons, donc M. Ousmane Sonko garde intact ses droits civils et politiques parce que sa révélation était basée sur le fait que le monsieur est jugé en état de contumace en vertu de l'article L.29 du Code électoral sénégalais.
À quelques mois des élections, quel est votre état d'esprit, vous, Sénégalais, observateur de la scène politique? Est-ce qu'on pourra avoir des élections apaisées?
Le climat aujourd'hui fait qu'il y a raison d'avoir un peu peur parce qu'une élection apaisé nécessite une élection inclusive, n'est-ce pas? Alors que malheureusement, avec là où nous nous en sommes, l'élection n'est pas encore inclusive, donc avec cette tentative d'exclusion d'une candidature. Et rappelons que ce n'est pas la première fois que ça se passe. Déjà en 2019, les candidats Kamim Wade et Khalifa Sall ont été exclus de la compétition. Et là aussi, vraisemblablement, en tout cas, le régime est très engagé et très déterminé à empêcher M. Ousmane Sonko de participer à cette élection présidentielle de 2024. Quand il y a une exclusion électorale, ça peut être source de tensions politiques. Et c'est ce que nous ne souhaitons pas pour le Sénégal.
Adama Sadio, je vous remercie.
C'est moi qui vous remercie.
C'était le politologue sénégalais également chargé de cours à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, Adam Sadio, invité de la rédaction aujourd'hui. Il était avec Jean-Claude Comé. C'est la fin de cette édition, le rappel de l'essentiel. Le projet budgétaire de l'État pour l'année 2024, fixé à 13 720 milliards de francs CFA, a été adopté hier mercredi en Conseil des ministres. Et puis hors de nos frontières au Maroc, près de 200 migrants sénégalais ont été secourus au large des côtes du Sahara occidental. Merci à vous de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous de l'actualité sur Radio de la Paix, 8h.
Radio de la Paix, l'info juste et sans passion.